Connaissez-vous la réponse à cette question? Est-ce que l'apôtre Paul était veuf ou célibataire? La parole de Dieu va nous donner une réponse surprenante pour plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a des questions qui m'intéressent particulièrement à l'émission d'aujourd'hui. Étant célibataire, je me sens concernée et je sais que le Seigneur va m'enseigner de belles choses que je pourrais appliquer dans ma vie pour la gloire de notre grand Dieu merveilleux. Alors voici nos questions. L'apôtre Paul était-il veuf ou célibataire? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il parlait de la soumission de la femme? Est-ce que les époux devraient se priver l'un de l'autre? Est-ce qu'un croyant est libre de se remarier si son conjoint non-croyant décide de se séparer? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il nous conseille de demeurer dans l'état où nous sommes à notre conversion? Restez avec nous. Le Seigneur est sur le point de nous enseigner sa parole par la bouche du pasteur Régent Joly. Qu'il puisse nous toucher particulièrement, chacun de nous. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on écoute ta parole aujourd'hui. On sait que c'est toi qui vas nous enseigner par la bouche de ton serviteur. C'est réconfortant de savoir que tu nous parles encore aujourd'hui dans les temps où nous vivons. Enseigne-nous, mon Dieu, aide-nous à réaliser que ta parole vient de toi et que tu vas nous faire du bien en ce moment même. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les chrétiens ne devraient pas plaider les uns contre les autres devant les tribunaux des justes. Il devrait y avoir des personnes qualifiées dans les églises afin de juger les différends entre les chrétiens. Nous devrions nous demander si un juge qui n'a pas l'Esprit de Dieu est vraiment qualifié pour prendre certaines décisions. Si les juges craignaient Dieu davantage, peut-être y aurait-il moins de laxisme dans le système judiciaire. Nous avons aussi noté que Paul nous rappelle que notre corps appartient à Christ. Donc, nous devons fuir la débauche. Il faut plutôt glorifier Dieu dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 7 de 1 Corinthiens, et nous traiterons du mariage et des relations sexuelles. Si nous appliquons les vérités spirituelles du chapitre précédent au mariage, cela pourra régler plusieurs problèmes matrimoniaux. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il semble que les Corinthiens aient écrit à Paul afin de le consulter sur le sujet du mariage. Nous ne savons pas quelle était la question, mais nous avons la réponse à celle-ci. Avant d'aborder le sujet du mariage, Paul a traité des questions au sujet des divisions et de l'immoralité. Maintenant, c'est avec assurance et sans hésitation qu'il va parler du mariage. Avant de nous pencher sur le texte lui-même, j'aimerais examiner deux éléments en guise d'introduction. Premièrement, Paul était-il un veuf ou un célibataire? Une question au sujet de l'état matrimonial de Paul. Si Paul ne fut jamais marié, les explications qu'il donne dans ce chapitre sont simplement des théories. Il ne parle pas par expérience. Cependant, Paul ne faisait jamais cela. Paul a toujours parlé selon son expérience. De plus, ce n'est pas dans les habitudes de l'Esprit de Dieu de choisir un homme qui ne connaissait rien du sujet dont il voulait qu'il traite. J'ai toujours présupposé que Paul n'était pas marié à cause du verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Si nous supposons que Paul ne fut jamais marié, Alors, lisons attentivement le verset suivant. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Peut-être vous dites-vous que Paul affirme qu'il n'est pas marié. C'est vrai qu'il n'est pas marié au moment de la rédaction de l'Épître. Cependant, il mentionne deux sortes de personnes non mariées, les célibataires et les veuves. Il est possible que Paul ait été un veuf. Il est difficile de croire que Paul ne fut jamais marié à cause de son contexte social, de qui il était. Rappelons-nous que Paul était un membre du Sanhédrin. Dans le livre des Actes, chapitre 26, verset 10, Paul mentionne « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Il n'y a qu'une manière que Paul pouvait joindre son suffrage à celui des autres. C'est en étant lui-même membre du Sanhédrin. Puisque Paul était membre du Sanhédrin, il devait être marié, car c'était une condition d'admissibilité au Sanhédrin. Les Juifs insistaient afin qu'un jeune homme se marie. Le Mishnah recommandait l'âge de 18 ans. Dans le Yéhamot, un chapitre de Mishnah, nous lisons « Un Juif qui n'a pas d'épouse n'est pas un homme ». De nombreuses personnes en arrivent donc à la conclusion que Paul fut marié un jour. Il devait être un veuf qui ne s'est pas remarié. Au chapitre 9, nous lisons « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces ?» 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. En fait, Paul dit qu'il aurait le droit de se remarier s'il le désirait, mais il ne le fera pas, car il serait difficile pour une femme de le suivre dans son ministère. J. Vernon McGee, le pasteur dont nous adaptons les textes, était d'avis que Paul a été marié. Il avait aimé une femme, et elle avait répondu à son amour. Il pense ainsi parce que Paul parle du mariage avec tendresse. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25, nous lisons « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » De nombreux érudits pensent que Paul fut marié et qu'il est devenu veuf. Paul ne parle jamais de sa femme, mais il parle tendrement du mariage. Le deuxième point que j'aimerais rappeler avant d'aborder le texte traite de la manière de vivre à Corinthe. Nous devons comprendre le contexte historique et culturel de Corinthe, sinon nous allons faire l'erreur de penser que Paul donne plus de valeur au célibat qu'au mariage. Nous devons comprendre la situation à Corinthe pour bien saisir la portée des paroles de l'apôtre Paul. Lisons les deux premiers versets de ce nouveau chapitre. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Les ruines de Corinthe sont au pied d'une montagne, et sur cette montagne était érigé le temple d'Aphrodite, ou Vénus. Aujourd'hui, nous y trouvons les ruines d'une forteresse des croisés. Ceux-ci ont utilisé les pierres du temple pour la construire. À l'époque de Paul, la vie du temple ressemblait à celle des autres temples païens. Les activités sexuelles faisaient partie de la religion. Il y avait 1000 prêtresses au temple. On pouvait y obtenir de la nourriture, de la boisson et des relations sexuelles. Tout cela se faisait au nom de la religion. En fait, ceci était la philosophie de Platon. Nous avons tendance à oublier l'immoralité de cette culture. Même si Socrate utilisait du langage relevé, il a aussi émis des règles de conduite pour les prostituées. La philosophie recommandait de se défaire de nos désirs charnels en y donnant libre cours et en les satisfaisant. C'est ce qu'on appelle le paganisme. Les stoïciens recommandaient de s'abstenir de satisfaire nos désirs, alors que les épicuriens encourageaient les gens de les satisfaire jusqu'au bout. Rappelons-nous que de l'Empire romain, la femme était considérée comme du bétail. Un homme en avait généralement plusieurs. Une pour la cuisine, une pour l'entretien du reste de la maison, et une pour s'occuper des vêtements. Les relations sexuelles étaient secondaires, car un homme pouvait toujours aller au temple. Dans certaines cultures nomades, cela se pratique encore de nos jours. Une s'occupe de la tente, une autre du troupeau, et une accompagne le mari dans ses déplacements. Les hommes trouvent utile d'avoir trois femmes. Maintenant, Paul élève le mariage à un niveau plus noble et il dit aux Corinthiens qu'ils ne doivent pas vivre selon les coutumes païennes. Chaque homme doit avoir une épouse et chaque femme son propre mari. Paul a tiré la femme de l'esclavage pour en faire la compagne de son mari. Il l'a élevée à la position qui lui revient de droit. Paul a écrit d'Éphèse, et à Éphèse on trouvait le temple de Diane. Le mode de vie ressemblait à celui de Corinthe. Paul a dit aux Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens chapitre 5, verset 25. La soumission demandée par Paul n'est pas l'obéissance d'une servante. Maintenant, je sais que quelqu'un va me dire qu'il a aussi dit aux femmes d'obéir à leur mari. J'aimerais que vous me disiez où il a dit cela. Il a dit plutôt, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Éphésiens chapitre 5, verset 22. Avez-vous déjà fait des recherches pour déterminer le sens exact de ce mot? Se soumettre veut dire « réagir ». Les femmes doivent répondre à leur propre mari. L'épouse doit réagir envers l'homme. L'homme est celui qui initie l'expression d'amour et la femme la reçoit et elle y réagit. Ce n'est pas seulement une question de relation sexuelle. Ceci engage toute la personnalité. L'esprit, les facultés mentales, les sentiments et le corps. La femme répond aux avances faites par l'homme. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme et la femme au début. La femme est une aide semblable à l'homme ou qui lui correspond. Elle est l'autre moitié de l'homme. Lorsqu'un homme dit que sa femme est frigide, il dit en fait qu'il est un échec comme mari et qu'il est à blâmer pour cette condition. Paul tire la femme de son état d'esclavage pour en faire une partenaire de l'homme. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Encore une fois, le contexte le dit. La femme réagit à son mari, donc il doit lui dire qu'il l'aime. Est-ce que vous lui dites? Lui dites-vous à votre épouse que vous l'aimez? Elle va réagir. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Autrement dit, l'homme ne doit pas accourir au temple d'Aphrodite. C'est péché. L'amour et les relations sexuelles se font à la maison. C'est ce que dit Paul dans ses versets. Le motif pour le mariage est une relation d'amour, ou, si vous préférez, au niveau du cœur, et non des relations sexuelles. Paul a dû connaître l'amour d'une femme excellente. Plusieurs grands hommes de la Bible ont connu l'amour d'une femme. Adam et Ève, Jacob et Rachel, Boaz et Ruth, David et Abigaïl. C'est Abigaïl qui a dit à David, « L'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. » 1 Samuel chapitre 25 verset 29. Que c'est bon, que c'est beau l'amour. Dans un couple. Paul continue à donner des conseils aux gens mariés. Versets 5 et 6. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Les époux ne devraient pas se priver l'un de l'autre. Ceci n'est pas un commandement, mais une recommandation. En la suivant, cela ne donnera pas à Satan l'occasion de tenter l'un des membres du couple. Il faut se protéger. Verset 7. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ce moment, Paul n'était pas marié. Il n'était pas question qu'il entraîne une épouse dans ses voyages périlleux. Nous rencontrons des personnes dans l'œuvre qui ne sont pas mariées. Elles firent ce sacrifice pendant quelques années ou pendant une vie entière. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. » Matthieu, chapitre 19, verset 12. Revenons à notre texte, d'un Corinthiens, chapitre 7, versets 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il est préférable de se marier que de brûler de passion. Versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Ici, Paul donne un commandement, et il l'indique clairement. L'épouse ne doit pas quitter son mari, et celui-ci quitter son épouse. Si l'un se sépare, alors ils ne doivent pas se remarier. Cependant, un nouveau problème se manifesta à Corinthe. Après que Paul eut prêché l'Évangile, soit que seul le mari acceptât le Seigneur, soit que seule la femme le fît, que devait faire le croyant dans cette situation? Bien, nous avons les versets 12 à 14. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si un croyant ou une croyante avait un conjoint qui n'appartenait pas au Seigneur, qui n'était pas chrétien, et si le couple avait des enfants, Paul dit que ce couple devait préserver leur mariage. Paul dit, « Demeurez mariés, si c'est possible. » Verset 15. « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » En matière de mariage, il faut examiner chaque cas individuellement. Si le non-croyant se sépare, alors c'est une autre histoire. Le croyant est libre. Plusieurs se demandent si le croyant a le droit de se remarier. Je pense que Paul l'aurait autorisé dans certaines circonstances. Je ne pense pas que l'on puisse faire un règlement rigide de nos jours. Chaque cas doit être examiné avant de prendre une décision. Je pense que cela peut être abusé facilement, même parmi les chrétiens. Je pense qu'il arrive qu'un mari ou une épouse essaie de se défaire de son conjoint et l'oblige à partir afin d'avoir une raison biblique de divorcer. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ceci devrait être l'objectif d'une femme. Je connais plusieurs femmes qui ont épousé des non-croyants et qui ont essayé de les conduire au Seigneur Jésus. Ce devrait être aussi l'objectif d'un homme marié à une non-croyante. Verset 17. Seulement. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Nous devrions demeurer dans l'état où nous sommes à notre conversion. Paul conseille aux gens de demeurer dans l'état où ils sont au moment de leur conversion. Devenir chrétien n'est pas une raison de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe. Si le parti non-croyant ne veut pas se séparer, le couple doit demeurer ensemble. Certains pasteurs conseillent aux personnes remariées de retourner vers leur premier mari ou leur première femme. Ce n'est pas ce que Paul recommande. Et suivre un tel conseil pourrait avoir des conséquences sérieuses. Versets 18 à 20. « quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Maintenant, Paul applique le principe à d'autres situations. Il l'applique à d'autres relations, dans la vie en général. Un Israélite qui se convertit n'a pas à devenir comme un non-juif. Un païen qui se convertit n'a pas à se faire juif. Ce n'est plus la circoncision qui compte, mais l'obéissance à Dieu. Juifs et païens font un en Jésus-Christ. Écoutez ces autres textes, entre autres l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 12 et 13. « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, versets 14 et 15. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Le message est de demeurer dans l'état où vous êtes lorsque vous acceptez Jésus-Christ. De nombreuses personnes d'affaires s'impliquent dans une organisation chrétienne après leur conversion. Ensuite, elles pensent à quitter les affaires afin d'œuvrer pour le Seigneur à temps plein. Mes amis, si vous réussissez en affaires tout en étant honnête, pensez-y bien avant de changer de carrière. Le Seigneur vous a peut-être donné un don pour servir dans les affaires et de donner à l'œuvre de Dieu. Nous avons l'exhortation dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le mot « libéralité », c'est la description de donner avec joie. Chers amis, terminons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 21 et 22. « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Un changement de maître. Et toi? Qui as-tu comme maître? De quoi es-tu esclave dans ta vie? Dieu est prêt à t'en délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ est la puissance pour t'en délivrer. Il est la personne qui est venue pour apporter la libération. C'est son ministère. C'est le but pour lequel il est venu ici-bas sur cette terre, de délivrer les pécheurs de leur esclavage. Lisons ensemble Luc chapitre 4. Et lisons versets 18 et 19. C'est le Seigneur Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il rajoute que toutes ces choses sont accomplies. Verset 21. Alors il commence à leur dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Va vers lui pour être libre. Prochaine émission, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 20 à 40.
Merci, Régent. Je ne m'étais jamais arrêté sur le fait que l'apôtre Paul était fort probablement un veuf. Je l'ai toujours cru célibataire, comme moi. Mais il reste qu'il n'avait pas d'épouse au moment où il a écrit cette épître. Et ça me réjouit d'être un peu comme lui, c'est-à-dire sans époux. Je suis presque certaine que Dieu m'a donné le don de célibat, mais je n'ose pas l'affirmer à 100%, parce que je ne connais pas tous les desseins de Dieu à mon égard pour l'avenir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une joie pour moi d'être célibataire et d'avoir par le fait même la pleine liberté d'aller là où on m'invite pour donner mon témoignage, pour chanter les louanges de Dieu et annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce, là où le Seigneur m'appelle à le faire. Et je peux partir sans penser que je prive un mari des soins auxquels il aurait droit, sans penser que je néglige mon devoir d'épouse. Aussi, quand je reviens chez moi, fatiguée après une campagne d'évangélisation, je suis très heureuse de me retrouver seule pour faire le plein. Je ne souffre pas de solitude. Je me sens très bien seule avec mon grand Dieu. Bien sûr, ce qui est important, c'est d'être dans l'état où Dieu veut qu'on soit, soit dans le mariage, soit dans le célibat, mais dans sa volonté. C'est là qu'on est heureux. La majorité de mes amis sont des couples mariés et je me sens très à l'aise de passer du temps avec eux. Et ils semblent m'accepter comme je suis. Je peux réellement dire que je suis bénie de pouvoir œuvrer avec plusieurs couples qui sont engagés dans le service de notre bien-aimé Sauveur. Et j'apprends beaucoup d'eux, même si on n'a pas le même statut social. Je pense que c'est ça la famille de Dieu. Il y a beaucoup d'amour. Il n'y a pas de préjugés, du moins de la part de ceux qui ont compris que c'est l'amour, selon la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 4 à 8. Aimeriez-vous que je vous les lise? Voici, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Oh, mes amis, l'amour, c'est extraordinaire. Surtout l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ son Fils, qui est venu sur la terre dans un corps comme le nôtre, qui a donné sa vie en rançon pour nos fautes. Mon ami, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est Dieu fait homme? Crois-tu qu'il a tout payé à la croix pour que tu puisses recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Si oui, j'aimerais t'inviter à reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. Ses bras sont grand ouverts devant toi maintenant. Il veut t'accueillir. Il veut te donner une vie extraordinaire. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. Il veut t'épargner ces flammes éternelles qu'on mérite tous à cause du péché. Reçois son pardon. Reçois ce beau don gratuit de la vie éternelle. Jésus a payé cher, très cher pour te l'offrir.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.